Dans le cadre de Vinapogé 2024, nous vous présentons un atelier intitulé « Le Pinot Noir en Majesté ». Bérangère Fierfort, chargée de mission recherche et développement chez Champagne Bollinger, présente la cuvée PN AYC18, une création libre et complexe, et offre une dégustation exclusive de Magnum de réserve entrant dans sa composition, jusqu'à 15 ans d'âge. Une véritable immersion dans la création de cette cuvée, qui exprime toute la singularité et l'intensité du Pinot Noir en Champagne et pour Bollinger.
Bonjour à tous, merci d'être présents pour le masterclass sur le Pinot Noir en Majesté. J'ai le plaisir de partager avec vous du coup ce moment. On va aujourd'hui déguster la cuvée PN AYC18. PN pour Pinot Noir, AYC parce que le cru principal de cette cuvée est AY Champagne. Et 18 parce qu'on est sur une base 2018. Donc Bollinger, c'est une maison qui a été fondée en 1829 à Haï, donc vraiment un grand cru de Pinot Noir. Et avec Denis, ce qu'on avait envie aujourd'hui, c'est de vous partager justement cet ADN Pinot Noir, notre philosophie, un de nos piliers du style. Donc je suis œnologue chez Champagne Bollinger depuis 2017. Je fais partie du comité de dégustation et je travaille, je participe à l'ensemble des dégustations. Les dégustations qui nous occupent beaucoup en ce moment, ce sont les dégustations d'assemblage pour la création de nos futures cuvées. Et je travaille du coup en étroite collaboration avec Denis Bunner, qui est chef de cave et directeur des vins chez Champagne Bollinger. Donc aujourd'hui, avant de démarrer la masterclass, la dégustation, je vais juste rappeler quelques points sur Bollinger pour qu'on partage tous un socle commun sur la maison. Et ensuite, on aura la chance de cheminer comme au moment des assemblages, au moment des choix qui ont été faits pour PN AYC18, de déguster différents magnums de réserve. Donc les magnums de réserve, c'est des vins de réserve qui sont stockés en magnum, sous liège et vieillis en cave pour un minimum de 7 ans. C'est une manière vraiment unique en Champagne de conserver ces vins de réserve. Et c'est très rare en fait que l'on fasse déguster ces vins en dehors d'AY, parce que c'est des vins qui ne sont pas commercialisés, qui servent uniquement à la création de nos assemblages. Donc, tout d'abord, Bollinger, c'est une maison familiale et encore indépendante. Donc, depuis 2008, on n'est plus sur un directeur de la famille. Notre directeur actuel, c'est Charles Armand de Bellonnet. Mais on est toujours sur un actionnariat qui est 100% familial. Et on a encore des membres de la famille Bollinger qui sont dans nos équipes AI. Par exemple, dans mon équipe de direction des vins, on a un alternant qui est petit-fils d'un ancien directeur de Bollinger. Aussi, Bollinger, on est vraiment dans notre ADN, notre philosophie, notre objectif, c'est de perpétuer nos savoir-faire, les transmettre et les mettre en valeur. Donc, Bollinger a été fondé en 1829 par trois personnes. Tout d'abord, Athanase de Villermont, qui était un noble, qui était propriétaire terrien à Haï et qui possédait également un château à Cuy. De par son titre de noblesse, il ne pouvait pas commercialiser des vins. Donc il a fait le choix de s'associer à deux personnes, Jacques Bollinger, un marchand de vins fins allemand, et une troisième personne, Paul Renaudin, pour le travail de la vigne et l'élaboration des vins. Donc Paul Redonin est en fait le premier chef de cave de Bollinger. Ces trois hommes forment un peu le trio parfait avec un propriétaire terrien, un homme de commerce et un homme plutôt de technique. Jacques Bollinger va épouser la fille d'Athanase de Villermont. Et ensemble, ils vont continuer à faire prospérer la maison Bollinger. Donc deux générations plus tard, Jacques et la fille d'Athanase de Villermont vont avoir un fils, qui auront eux-mêmes un autre fils, qui s'appellera également Jacques Bollinger, qui va reprendre les rênes de l'entreprise au début du XXe siècle. Jacques Bollinger va épouser une personne très importante pour Bollinger, une personne qui a vraiment permis le rayonnement de la marque et qui a permis la création de différentes cuvées, qui est Elisabeth Lowe de Lauriston, qui est Madame Bollinger. On entend aussi son nom souvent sous le patronyme Lily Bollinger. Donc, Elisabeth et Jacques se marient en 1924. Et Jacques va décéder en 1941, donc pendant la Seconde Guerre mondiale, de maladie. Et c'est Madame Bollinger qui va reprendre les rênes de l'entreprise. Donc pour l'époque, on est quand même en 1941, c'est audacieux pour une femme de reprendre la tête d'une entreprise comme Bollinger. Et on doit beaucoup à Madame Bollinger aujourd'hui dans le style de nos vins, dans nos savoir-faire, dans nos cuvées. Madame Bollinger, c'était une femme qui était vraiment audacieuse. C'est elle qui a créé la cuvée RD, récemment dégorgée. Son objectif au travers de cette cuvée, on est à peu près dans les années 60. C'est une période où les maisons de champagne créent des cuvées de prestige. Et pour Madame Bollinger, l'ensemble des vins, de ces vins sont des vins de prestige. Et ce qu'elle souhaite faire, c'est en cave, on a des vieux millésimes, très bons vieux millésimes, qui sont dégorgés à la volée en interne pour des événements. Et ce qu'elle souhaite faire, c'est partager ce goût unique de cuvée récemment dégorgée auprès des consommateurs. Donc elle crée la cuvée RD. Le premier millésime qui va sortir de la cuvée RD sera la cuvée 1954, en 1969. Et ensuite, elle va créer aussi une autre cuvée, AI, on a un clos qui s'appelle les vieilles vignes françaises. C'est un clos qui est unique en Champagne parce que c'est un clos qui est préphylloxérique. Les vignes ne sont non greffées dans ce clos. Et donc on a deux petites parcelles non greffées que Madame Bollinger va faire vinifier séparément, tirer séparément, pour donner la cuvée de prestige qui est les vieilles vignes françaises. On doit également à Madame Bollinger la préservation de savoir-faire. À une époque où les maisons vont se tourner vers la capsule au tirage ou par exemple vont se tourner vers l'inox pour la vinification, Madame Bollinger va faire le choix de conserver un très grand parc de fûts. On a à peu près plus de 3500 fûts chez Bollinger qui ont une moyenne d'âge d'environ 25 ans. Elle va aussi faire le choix pour nos cuvées millésimées de conserver le liège au tirage pour vraiment préserver l'aromatique des vins. Et ces choix, au départ, ont été faits par empirisme. Et aujourd'hui, on a pu vérifier que ces choix se justifiaient très bien techniquement. Donc Bollinger, de cette transmission, se base sur 5 piliers, 5 éléments forts de notre style. Le vignoble maison, on a un vignoble qui fait 180 hectares avec une majorité de pinot noir. Le pinot noir, c'est vraiment ce sur quoi on va mettre l'accent aujourd'hui. Avec la cuvée PN qui est un 100% pinot noir. Le pinot noir se retrouve à plus de 60% dans la composition de nos assemblages. Donc c'est le deuxième pilier chez nous, chez Bollinger. On a aussi une petite parcelle en monopole qui s'appelle la Côte aux Enfants, qui nous permet de vinifier des vins rouges et qui sert également à l'assemblage de nos rosés. On a également un des piliers qui est les vins de réserve en magnum. Donc vraiment, ce sur quoi aussi on va pouvoir échanger aujourd'hui, déguster. La plupart des maisons de champagne conservent les vins de réserve en inox. Chez Bollinger, pour ce qu'on a observé, c'est que pour les vins qu'on souhaite conserver plus de 7 ans, le magnum était vraiment le format idéal. Ça va nous permettre de développer un milieu réducteur, d'avoir des arômes vraiment particuliers. Ensuite, on a le quatrième pilier, qui est la fermentation en tonneau. Donc, comme je vous disais, on a un parc de plus de 3500 barriques. Donc ça nous permet à la vendange de vraiment faire des vinifications par cru isolées. On a pour entretenir ce parc un tonnelier à deux mains. Donc vraiment une personne qui est artisan tonnelier. Son travail de l'année, c'est réparer nos tonneaux. On a aussi une petite forêt de, comme je vous disais, Athanase de Villormont était propriétaire d'un château à Cuis, mais également d'une forêt. On a développé quelques barriques à partir de cette forêt. On a identifié il y a 5 ans des chênes dans cette forêt qui étaient aptes à produire des tonneaux. Donc on a quelques barriques de notre propre domaine. Et enfin, le temps. Chez Bollinger, vraiment le temps, c'est un métier de patience parce qu'on va faire des assemblages qui, pour le spécial cuvée, seront dégorgés dans 3 ans. Enfin, tirés cette année et dégorgés dans 4 ans, du coup, pour avoir 3 ans de vieillissement sur lit. Pour les grandes années, on va être sur des vieillissements qui sont au moins de 7 ans. Et pour la cuvée RD, on va être sur des vieillissements de 14 ans. Donc aujourd'hui, nous, l'accent, on va le mettre vraiment sur les magnums de réserve. Donc si vous voulez démarrer à les servir. Donc les magnums de réserve ont été mis en place dès les années 1890 chez Bollinger. Donc à cette époque-là, les vins étaient vinifiés uniquement en barrique. Et les fondateurs de Bollinger trouvaient que la conservation des vins de réserve en barrique ne permettait pas de garder les vins suffisamment longtemps pour avoir des vins de réserve évolués qui puissent intégrer des multimillésimes comme spécial cuvée. Ils ont donc fait le choix de tirer ces vins de réserve en magnum et de les conserver en cave pour un vieillissement d'au moins 7 ans. Donc aujourd'hui, on a en cave des magnums de réserve qui vont avoir de 7 à 15 ans. L'objectif vraiment de ces magnums, c'est de pérenniser le style de nos multimillésimes, comme spécial cuvée, comme Bollinger rosé, mais aussi et surtout, comme aujourd'hui, la cuvée PN. Donc c'est des vins, je n'ai pas précisé, c'est des vins qui sont uniquement vinifiés sous bois, par cru et par année. Donc ça va nous permettre d'avoir vraiment en cave une bibliothèque de vins pour le chef de cave et son équipe pour pouvoir créer un assemblage qui sera le plus adapté au style. Et ensuite, donc vous pourrez voir, ces magnums de réserve, c'est vraiment des bombes aromatiques parce qu'ils vont être tirés liège, ce qui va permettre de laisser rentrer une quantité très faible d'oxygène. Ça va également être... c'est des vins qui sont tirés. Donc là, dans la bouteille, on va retrouver 2 barres, alors qu'un champagne classique, on va être sur 8 barres. Donc on parle de quart de mousse pour ces vins-là. Et cette autolyse sur lit va permettre de développer vraiment des arômes qui vont plutôt être sur le toasté, le grillé. Mais le mieux, c'est d'attendre d'avoir les 3 vins servis pour pouvoir les commenter. Donc vous allez avoir devant vous 3 magnums de réserve. En premier, pour vous, de la gauche vers la droite, le 2014, 2012 et 2009. Donc c'est uniquement des magnums de réserve d'AI. L'objectif vraiment, c'est quand on a fait l'assemblage pour AIC18, on a fait le choix d'un magnum de réserve qui allait le mieux avec la base 18. Donc on a, comme vous aujourd'hui, dégusté ces 3 magnums de réserve pour en sélectionner un. Donc c'est aujourd'hui des magnums de réserve, pour le 2012 et le 2009, qui ont été utilisés dans différents assemblages chez nous. Donc on les a pris, là ce que vous voyez en photo, c'est ce qu'on appelle la réserve, c'est un caveau qui est dédié uniquement à la conservation des magnums de réserve pour le patrimoine. Donc vous allez retrouver des casiers ici, on ne voit pas avec le pointeur, BZ21 pour Bouzy 1921. En face, vous aurez du Verzenay 1928, par exemple. Et donc, par cru, dans cette réserve, nous conservons à peu près 50 magnums de chacun des magnums de réserve que nous produisons. Ça nous permet vraiment d'avoir un patrimoine pour pouvoir les déguster, je dirais, une fois tous les 10 ans, pour comprendre comment les vins évoluent et aussi pour se rappeler le millésime.
Ils sont tirés liège,
tout ça. Tout ça est tiré liège, oui. Alors, on était à 2 barres au moment du tirage. Donc là, les 1921, il n'y a plus de pression. Et donc, et avant, jusque dans les années 30-40, on pouvait encore avoir des bouteilles de réserve parce que le verre, à l'époque, était fragile. Les magnums pouvaient être plus fragiles que la bouteille. On est vraiment passé 100% en magnum dans les années 40-50. Donc le 2014, il a aujourd'hui 9 ans sur lit. Il est plutôt déjà, il est encore sur des arômes assez fruits confits, de fruits jaunes confits, un peu de Mirabelle. On perçoit la légère effervescence du magnum de réserve. Cette légère effervescence, quand on va remettre en cercle les magnums de réserve pour l'assemblage, va permettre d'apporter aussi une petite crémosité, une finesse dans l'assemblage des multimillésimes. Donc là, 2014, on était plutôt sur une année assez chaude. On est sur quelque chose, vraiment les magnums de réserve. Là, on est encore sur quelque chose d'assez plutôt porté sur le fruit mûr, fruit compoté, des légères notes de pain d'épices. Ce qu'on va rechercher chez Bollinger sur nos magnums de réserve, ça va vraiment être plutôt le côté torréfaction, noisettes, aussi des arômes un peu briochés, pain grillé. Vous voyez, vous voyez aussi un peu le léger trouble, c'est parce que les lits sont présents dans les magnums, on ne peut pas les dégorger. Je ne sais pas si vous avez vu aussi au moment du service, il y en avait un qui était... Ou il est peut-être encore derrière. Bon, c'est les magnums de réserve, on les réutilise. Comme ce n'est pas des choses qui sont mises sur le marché, une fois qu'ils sont ouverts pour rentrer dans un assemblage, on les lave et ils resservent à un prochain tirage. Donc pour limiter notre impact aussi environnemental avec cette méthode. Donc ensuite, si on prend le 2014 face au 2012, je ne sais pas si vous avez des commentaires sur le vin ou des questions. J'ai enchaîné.
Ouais, j'ai juste une question.
Ouais.
Tout à l'heure, vous l'avez testé par rapport à 2018. C'était quoi que vous cherchiez justement ?
Alors justement, 2018, on est sur une année très solaire. Avec un été très chaud, on était sur des vins qui étaient assez riches, assez opulents. Donc on recherchait plutôt de la balance, donc on cherchait plutôt un magnum de réserve qui était sur la fraîcheur, la noisette fraîche. Donc là, sur le 2014, on est sur un profil qui est encore, pour nous, qui n'est pas prêt pour un magnum de réserve. On dit qu'un magnum de réserve, il faut qu'il ait minimum 7 ans de vieillissement, mais ce n'est pas mathématique. Parfois, certains vins ont besoin de plus de temps. Donc on va les utiliser entre 7 ans et 15 ans. Là, celui-là, avec 9 ans de vieillissement, pour nous, il n'a pas encore ce profil vraiment magnum de réserve, grillé, toasté, que l'on recherche. Le 2012, on va commencer vraiment à avoir ces arômes-là, avec la noisette fraîche. Quelque chose de vraiment grillé et en bouche aussi, ça fait vraiment une salinité, quelque chose de très vif. Alors du coup, oui, c'est des vins qui sont non dosés aussi. Donc 2012, on était un peu comme 2018 sur une année qui était assez chaude, un été assez sec. Et ce qui est intéressant du coup, c'est de comparer le 2012 au 2009 dans votre troisième verre. Où là, 2009, il a besoin d'un peu plus de temps pour s'ouvrir. Il est un peu austère au premier nez. Et donc ouais, un peu plus austère, il va avoir besoin de s'ouvrir un peu plus. Et on va retrouver un peu aussi des arômes, du coup, derrière ces arômes de torréfaction, de chauffe, un peu des arômes presque légèrement pétrolants. On a moins sur le 2009 l'opulence du 2012. Donc c'est vraiment plutôt ce qu'on recherchait là, au moment des dégustations, pour balancer avec les vins clairs qu'on avait de 2018. Plutôt ce côté vraiment citronné, noisette fraîche, torréfié. Après, c'est un peu ouais, le citron, un peu yuzu, quelque chose qui va apporter une vivacité en bouche, qui va apporter aussi une sapidité. Enfin, les magnums de réserve, c'est un peu aussi toujours une gourmandise de les déguster, parce que même nous, en tant qu'œnologues, on les déguste deux, trois fois dans l'année. On les déguste au moment des assemblages, on les déguste aussi pour suivre le vieillissement. Mais sinon, c'est des vins qui sont en cave, qui vieillissent, sur lesquels on laisse le temps agir et nous, on intervient que de temps en temps pour voir où le vin en est.
Le malolactique, il est fait ou...
Oui, alors chez Bollinger, un petit peu, c'est les lits aussi qui... Normalement, les magnums, on les place au frais 24-48 heures avant pour que les lits redéposent un peu. Là, les lits sont vraiment présentes dans le verre, donc ça donne un peu ce côté beurré, lacté. Mais tout, ouais, chez Bollinger, on fait sur l'ensemble de nos vins, toute la malolactique est faite systématiquement, tout comme la fermentation alcoolique est faite de manière avec des levures sèches déshydratées. Ce qu'on souhaite, c'est vraiment avoir la maîtrise de notre vinification pour avoir des profils francs et nets. Du coup, si vous reprenez le 2014, du coup, pour le coup, on est vraiment plutôt sur un côté encore fruit, un côté un peu pâte de fruits. Alors que le 2009, on est vraiment déjà sur la fraîcheur, la tension. Vous aviez déjà eu l'occasion de déguster des magnums de réserve ou c'est la première fois pour tout le monde ? Une première ? On les sort très peu de cave parce que de manière... En fait, c'est des vins qu'on ne commercialise pas, donc Ça demande aussi toute une logistique derrière douane pour pouvoir les transporter et les sortir de nos caves. Donc c'est vraiment des moments privilégiés qu'on a quand on déguste ces magnums.
C'est la mode en ce moment de certaines maisons qui sortent des cuvées uniquement en réserve. Est-ce que c'est quelque chose que...
C'est pas dans la volonté de Bollinger aujourd'hui, non. Nous, c'est vraiment le style, c'est d'être sur une majorité de pinot noir, le fruit dans tous ses états, et d'avoir justement les différents stades du fruit dans nos vins. Donc à la fois les fruits frais apportés par les années de vendange, les fruits un peu plus compotés, plus mûrs apportés par les vins de réserve, et cette troisième couche de fruits qui est les fruits secs apportés par nos magnums de réserve.
Et les assemblages, c'est que des monocépages, les magnums de réserve ?
Alors les magnums de réserve, oui, c'est que des monocépages, que des monocrus et que des monoannées. Donc en cave, on va vraiment avoir une bibliothèque de vins. On a 800 000 magnums aujourd'hui qui attendent dans nos caves pour les assemblages. Donc c'est vraiment... Et c'est rangé, entrayé à la main. Donc, alors pour le spécial cuvée, on va prendre plusieurs millésimes. On va jouer sur plusieurs magnums de réserve. Pour la cuvée PN, on fait souvent le choix d'un seul magnum de réserve pour vraiment soutenir le vin et le mettre en avant. Donc les magnums de réserve, ça va représenter un travail, j'en ai pas ici, mais c'est Boucher-Liège avec agrafe. Donc c'est ouvert manuellement. On en ouvre à peu près 100 000 pour l'assemblage de spécial cuvées. On en ouvre pareil à peu près 10 000 pour les cuvées PN. Donc c'est 2 mois de travail manuellement à ouvrir les magnums. Et nos cuvistes dégustent chaque magnum de réserve. Comme on est Boucher-Liège, on a besoin de garantir l'absence de défauts liés au bouchon. Donc c'est vraiment... Ils sont formés à la dégustation aussi. Donc c'est là, on a fait ça à peu près, on fait ça après la période des vendanges, octobre-novembre. Et là, on est plutôt dans la période des dégustations vin clair pour le choix d'assemblage de nos futurs cuvées, mais aussi pour choisir quel vin du cellier ira en magnum de réserve. Et donc si vous gardez le 2009, on va servir le dernier vin que je vais vous présenter. Le AICPN 18. Je vais prendre le pointeur. Donc, PN AIC 18, c'est la quatrième édition de la QVPN. La QVPN, c'est une cuvée qui a été créée en 2015. Donc, à l'époque, c'était Gilles Descôtes qui était le chef de cave. Et donc, Bollinger, maison de Pinot Noir, n'avait pas de blanc de noir dans sa gamme, hormis les vieilles vignes françaises. Donc la volonté de Gilles, c'était d'avoir un blanc de noir qui soit plus accessible que la vieille vigne française, parce que les vieilles vignes françaises, c'est quand même très limité de par la surface de la parcelle. Et donc il a proposé à ses œnologues de l'époque que chaque œnologue propose un projet d'assemblage blanc de noir. Le cahier des charges, c'était uniquement ça, un blanc de noir 100% pinot noir. Et après, les œnologues étaient libres d'aller piocher dans les vins de réserve, dans les magnums de réserve, dans les vins sous bois, dans les vins en inox, dans toute la palette des vins qu'on peut avoir chez Bollinger. Donc c'était vraiment assez audacieux et humble de sa part à l'époque de proposer aux différents œnologues de créer un projet, parce qu'en tant que chef de cave, c'est un peu remettre en cause son titre. Et du coup, ils ont dégusté 3 projets à l'aveugle. Et le projet qui a gagné, qui a été préféré par l'ensemble des œnologues, c'est finalement le projet de Gilles. Donc il a gardé sa casquette. Et donc on était sur une construction d'une cuvée avec 25% de magnum de réserve, donc vraiment une proportion importante dans l'assemblage de magnum de réserve, 25% de vin de réserve en inox, 25% de vin de l'année en vinifié en inox également, et 25% de vin de l'année vinifié sous bois. Donc c'est vraiment une cuvée où on va retrouver les différents marqueurs de Bollinger en proportion importante. Et donc cette cuvée va mettre en avant un cru, selon l'année, et le cahier des charges qui a été gardé, donc c'est le cahier des charges fixé en 2015, a été conservé pour les autres années, et maintenant on n'est plus sur un concours entre œnologues, on est sur un concours entre crus. On va déguster 2 à 3 crus chaque année pour voir quelle crue aura le meilleur potentiel pour devenir une cuvée PN. Donc ça sera un cru principal, ce n'est pas un monocru, c'est le principal dans l'assemblage. Il représente plus de 40% de l'assemblage. Donc juste pour vous replacer AI, donc le vignoble Bollinger aujourd'hui c'est 180 hectares dont 105 de Pinot Noir. Donc on est placé à Verzenay, plutôt côté montagne nord. Ensuite on a Louvois-Tossière, Avenay et AI plutôt sur le sud de la montagne de Reims, avec AI qui démarre pour la vallée de la Marne. Pour les Pinot Meunier, on a le vignoble de Chambroisy. Et on a enfin le vignoble historique de Cuy pour les Chardonnay. Ce vignoble d'AI, il représente 22 hectares. Donc vous avez notre parcellaire qui est représenté sur la carte. Les parcelles qui sont représentées en rouge, c'est nos parcelles qui sont vinifiées en rouge. Pour à la fois, ici, vous retrouvez la Côte aux Enfants. Et ici, vous retrouvez des parcelles qui sont vinifiées en rouge pour Bollinger Rosé. Et donc, la qualité ne rend pas très bien, mais ce qui est très intéressant à AI comparé à d'autres crus, c'est qu'on va vraiment avoir une diversité d'expositions. On va être sur des expositions vraiment diversifiées parce qu'on va avoir deux tirages hydrauliques. On va avoir la Marne qui va donner des expositions plutôt au est. Et on a le Cubray qui va couper dans l'autre sens les pentes, qui va donner plutôt des expositions nord-sud. Donc la cuvée PN que vous avez devant vous, tout le monde a été servi pour la cuvée PN. Donc dans la cuvée PN, vous allez retrouver ce magnum de réserve de 2009 qui représente un quart de l'assemblage. On a du coup de 25% de l'année de base de 2018 en cuvée inox, dont du AI. On a aussi 25% de fût de 2018, dont du AI. Des magnums de réserve de AI 2009 et enfin des vins de réserve en inox de 2016 et 2017. On dit que le projet AI est le plus abouti parce qu'on va retrouver du AI dans l'ensemble des composantes. AI dans la cuvée AI PN18 va représenter 47% de l'assemblage. Il va être soutenu du coup sous toutes ses facettes, à la fois vinification en inox, vinification sous bois, mais aussi en vin de réserve et en magnum de réserve. Alors moi c'est celui-là. Donc AI, on va vraiment retrouver plutôt l'opulence du Pinot Noir. On est vraiment sur des vins qui ont une vinosité, qui sont charnus. On a presque, pour un champagne, presque des notes un peu de légers fruits rouges. On a aussi un peu des arômes d'amandes fraîches. On est vraiment sur la... C'est vraiment un marqueur d'AI, c'est cette opulence, cette gourmandise qui va être différente. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de déguster, mais l'édition PNVZ15, où on est plutôt sur la tension, la salinité. AI, on est vraiment plutôt sur des pinots noirs qui vont avoir une maturité plus importante, qui vont être vraiment plus opulents. Donc vraiment, la philosophie de cette gamme pinot noir, c'est de mettre en avant ce cépage, notre ADN, notre empreinte, et de le magnifier au plus possible. Donc sur 2018, on était vraiment là pour le coup sur une année très chaude. C'est une année où on a eu un cycle végétatif chez nous le plus court. On a eu une floraison très hâtive début juin et on a vendangé la première parcelle sur AI au 23 août. Donc on était sur un cycle de 85 jours entre la fleur et la récolte, alors qu'en moyenne, aujourd'hui, maintenant, on est plutôt à 90 jours. Donc vraiment, ça nous a... On a eu une vendange aussi du coup très concentrée, où on a fait une vendange sur une quinzaine de jours, et qui nous a permis de rentrer vraiment avec des pinots noirs charnus, gourmands. Donc AI, c'était notre quatrième édition qui venait suivre TX-PN17. Et les deux précédentes éditions, c'était PNVZ15 et PNVZ16. Et aujourd'hui, on a un nouveau blanc de noir aussi dans la gamme, depuis un an maintenant, qui est le Côte aux Enfants Champagne. Donc, qui est en fait sur notre monopole, la Côte aux Enfants, on a deux faces. Une face exposée sud, qui va servir à la vinification du rouge, et une face exposée nord, qui va servir à la vinification d'un champagne parcellaire, la Côte aux Enfants Champagne. Donc on a chez Bollinger vraiment cette gamme un peu en entonnoir, où on va retrouver à la fois notre multimillésime spécial cuvée Bollinger Rosé, mais aussi des cuvées à l'échelle du cru, comme la gamme PN, et ensuite des cuvées à l'échelle parcellaire avec le Côte aux Enfants Champagne, et enfin la pépite, le clos des vieilles vignes françaises. Sur spécial cuvée, on est à peu près entre 5 et 10%. Le 25%, c'est pour la QVPN. Le cahier des charges de la QVPN, c'est ça, c'est 25% de magnum, 25% de vin de réserve et 50% de vin de l'année, décliné moitié en inox, moitié en fût. En fait, spécial QV, on va retrouver une dizaine de pourcents de fût. On a PN, on va retrouver 25% de fût. Et après, on a nos millésimes qui vont être vinifiés là, 100% en fût. Donc on va y aller crescendo. Et en fait, on a en ce moment des travaux de, si vous avez l'occasion d'aller à I, on est en grande rénovation, on a un projet de bicentenaire, parce que notre bicentenaire est en 2029. Et donc, on est en train de rénover notre cellier pour pouvoir accueillir plus de fûts, mais aussi pouvoir accueillir un nouveau circuit œnotouristique. Et donc, voilà, notre volonté, c'est de continuer de préserver ce parc de fûts et de le faire grandir. Si, on a également des chardonnays en magnum de réserve. On n'a pas de pinot meunier par contre, on a uniquement pinot noir et chardonnay. Alors on va les utiliser pour spécial cuvée et pour Bollinger rosé. Donc on a une proportion à peu près en cave, on a 70% de pinot noir en magnum de réserve et 30% de chardonnay. On tire, mais c'est, ouais, du coup, c'est comme on ne vinifie pas de pinot meunier au cellier, sous bois, on n'en retrouve pas en magnum de réserve ensuite. L'objectif vraiment de la vinification sous bois pour le magnum de réserve, c'est de le préparer à un vieillissement long. D'avoir déjà ce contact avec l'oxygène et de le préparer à un vieillissement plus important. C'est ouvert. L'objectif, c'est de renforcer quand même le cru. Mais potentiellement, on pourrait utiliser deux AI, deux millésimes différents. Après, par rapport aux proportions, ça reste souvent un... Aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, ça a été un.
Mais par contre, du même cru.
Du même cru, oui.
Ouais.
Comme ça représente quand même 25% de la cuvée,
ouais, il faut que ça soit
quand même un magnum de cru, de ce cru. Donc là, on est dans cette période-là. On est en train de faire deux projets et on devrait les déguster normalement la semaine prochaine pour l'édition PN 2023.
Voilà. Vous avez déjà...
Oui, on a déjà deux projets sur deux crus. Voilà. Et ça sera rêvé. La cuvée PN, c'est une cuvée qui a un vieillissement de 4 ans. Donc le résultat sera dans 4 ans. Et le prochain, là, la prochaine édition sortira en juin 2024, du coup. Voilà. Merci pour.
Merci.